France Internationale, 8h à Paris, il est 6h en temps universel.
RFI Matin.
Un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et l'horreur, une fois de plus, cette nuit à Gaza.
Une frappe israélienne a touché l'hôpital Al-Ahli à Gazaville, le seul encore en fonctionnement dans le nord de l'enclave. Les patients, parfois graves, avaient dû évacuer quelques minutes avant les frappes. On retrouve Abla Junaidi, notre envoyé spécial à Jérusalem. Le Liban commémore aujourd'hui les 50 ans du début de la guerre civile. On verra que dans le pays, la question de la mémoire commune est encore extrêmement sensible. À suivre aussi en Côte d'Ivoire le grand meeting de Laurent Gbagbo hier à 6 mois de la présidentielle. En Équateur, les électeurs voteront tout à l'heure, second tour du scrutin présidentiel entre Daniel Noboa, le président sortant, et Luisa Gonzalez, la candidate de gauche. Aux États-Unis, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez qui tentent de faire émerger une nouvelle génération de démocrates. Ils sont en tournée en ce moment. Et puis le marathon de Paris va partir à l'instant. On va retrouver à la fin de ce journal Salut Diouf, qui va suivre la course.
Direction Gaza, donc, où une frappe israélienne a touché l'hôpital Al-Ahli dans le nord de l'enclave.
Oui, c'est le dernier hôpital fonctionnel dans le nord de Gaza. Plusieurs installations et équipements ont été détruits. Abla Junaidi, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour.
Abla, des patients avaient dû évacuer quelques minutes avant ces frappes dans des conditions extrêmes, puis des scènes de chaos et d'horreur, donc en pleine nuit autour de l'hôpital.
Oui, Jeanne, les vidéos tournées par le journaliste palestinien Anas Al-Sharif d'Al Jazeera avant les frappes sont saisissantes à la suite de l'avertissement de quitter la zone en pleine nuit émis par l'armée israélienne. Les patients et proches des malades se sont déversés dans les rues avec leurs lits d'hôpital, les bouteilles d'oxygène parfois. On parle là de personnes amputées, des brûlées, autrement dit des blessés à haut risque. D'ailleurs, selon le médecin américain Razan Al-Nahas qui vient de passer 50 jours à Gaza, 3 patients au moins seraient morts lors de leur évacuation, dont une enfant sous oxygène. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan humain de la frappe elle-même. La réception et le département des urgences de l'hôpital seraient détruits par le feu, endommagés aussi le labo, la pharmacie et le stock d'oxygène pour les soins intensifs. Les médecins et soignants d'Al-Ahli avaient l'habitude de travailler dans les pires conditions. On se souvient de la fameuse frappe qui avait fait plusieurs centaines de morts au tout début de la guerre. Mais ce matin, le dernier hôpital fonctionnel du Nord est un amas de ruines. Certains patients étaient emmenés vers un hôpital plus petit, moins équipé, lui-même partiellement détruit, celui d'Al-Shifa, environ 3 km de là, sans garantie de survie vu les conditions de transport. Et alors que les bombardements se poursuivent par ailleurs à Gaza, le Hamas accuse Israël de crimes de guerre aujourd'hui après cette frappe. Al-Ahli est le 35e hôpital bombardé depuis octobre 2023 à Gaza.
Abla Junaidi, merci, en direct avec nous de Jérusalem. À noter que l'armée israélienne a répondu à l'agence France Presse en disant qu'elle examinait les informations sur cette frappe. Le Hamas, vous l'entendiez, qui a dénoncé un nouveau crime de guerre. Le mouvement islamiste qui a publié par ailleurs une vidéo d'un otage israélo-américain identifié par le forum des familles d'otages comme Edan Alexander. Il y critique le gouvernement israélien pour la poursuite de sa détention.
Eux plaident la paix en dépit de leur passé de miliciens pendant la guerre civile.
C'est au Liban que ça se passe. Le pays commémore aujourd'hui les 50 ans du début de la guerre civile de 1975 à 1990. Une loi d'amnistie générale avait ensuite été voté au Liban. Résultat, aucune justice transitionnelle ni aucun travail de mémoire n'est réellement mis en place. Alors une poignée d'anciens combattants qui ont rompu avec leur passé de miliciens sillonnent les écoles. Reportage de Sophie Guignon dans une université de Jabb el-Dib au nord de Beyrouth.
Malheureusement, notre pays célèbre le début de la guerre civile. Dans d'autres pays, on célèbre la fin des guerres.
Au micro, Assad Cheftali, ancien responsable du renseignement de la milice chrétienne des forces libanaises. Avec l'association Les Combattants pour la Paix, un groupe de miliciens repentis de tous bords, il dispense des cours de rattrapage sur la guerre civile à une jeunesse souvent mal informée. Marc Mata et Meissa Zainoun sont étudiants.
Je connais l'histoire à travers les récits de mon père. Je sais que les gens se sont battus entre eux, chrétiens contre chrétiens, puis chrétiens contre musulmans.
À l'école, les livres d'histoire ne sont pas à jour, car il n'y a pas de consensus pour les mettre à jour.
On a mis la poussière sous le tapis et on prétend que rien ne s'est passé. C'est encore un sujet tabou.
En 10 ans, ces ex-guerriers ont rencontré 60 000 jeunes à travers le Liban. Une manière de lutter contre l'oubli et de se racheter. Ziad Saab est président de l'association et ancien combattant communiste pro-palestinien.
Pour ne pas que cette expérience se répète dans le pays, il faut que les gens connaissent leur histoire et non pas qu'ils l'oublient.
Assad et Ziad, les deux ennemis d'hier, militent désormais ensemble pour qu'un jour les talibanais mènent un travail de mémoire et de réconciliation nationale. Sophie Guignon, Jalette d'Iber FI.
Jeanne, les États-Unis saluent un pas en avant et des discussions très positives et constructives.
La déclaration de la Maison-Blanche à l'issue de pourparlers indirects hier avec l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Peu d'informations sur le contenu précis de ces discussions, mais Iran et États-Unis confirment que le dialogue se poursuivra samedi prochain.
Les États-Unis encore qui lâchent du lest dans leur guerre commerciale.
Mais les smartphones et les ordinateurs venant de Chine ne seront finalement pas taxés à hauteur de 145%. Exemption rendue publique hier, les semi-conducteurs sont eux concernés par une dispense de surtaxe de 10% appliquée à la plupart des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Décision qui offre évidemment un bol d'air aux consommateurs américains qui risquaient de voir le prix de ces produits s'envoler. Elles vont aussi bénéficier aux géants de la tech comme Apple qui fabrique ses iPhones en Chine.
RFI, 6 heures passées de 6 minutes en Côte d'Ivoire. Le grand meeting de Laurent Gbagbo hier à 6 mois de la présidentielle.
Devant plusieurs milliers de partisans réunis à Dabou, à l'ouest d'Abidjan, l'ex-chef de l'État a explicité sa décision de retirer son parti, le PPACI, de la Commission électorale indépendante. Une CEI jugée inféodée au pouvoir, selon les termes de la formation. Ce choix est défendu par les militants et ne serait qu'une première étape. Reportage Benoît Almeras.
T-shirt bleu à la gloire de Laurent Gbagbo, Ange Michael a fait 300 km juste pour voir son candidat. La militante valide le retrait de la CEI.
Je pense que c'est un ras-de-bol. C'est un cul de cœur en même temps. Tout ce qui ont deux plans au niveau de la CEI ne se fait pas entendre. Donc c'est un ras-de-bol.
Ses partisans exigent entre autres la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il en est radié depuis 2020 à la suite d'une condamnation par la justice. Certains en appellent au président Alassane Ouattara.
Il n'a qu'à mettre Laurent Gbagbo son nom là. Il n'a qu'à mettre. On va faire vote. C'est ce que je demande. Pour éviter tout. C'est tout.
Sur scène, face à la foule acquise à sa cause, Laurent Gbagbo félicite la délégation du PDCI qui a aussi quitté la CEI.
Je suis heureux que le PDCI nous a suivis. Quand tu te bats, tu as l'impression que tu es le seul à voir le mal que tu vois. Oh, eux aussi voyaient.
Et malgré son inéligibilité, l'ex-président promet que son parti ira jusqu'à la présidentielle.
Que nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection.
Laurent Gbagbo qui donne rendez-vous dans 2 semaines à ses militants pour un nouveau mot d'ordre. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Au Gabon, à présent, les résultats de la présidentielle attendue à la mi-journée aujourd'hui, 13h30, heure de Libreville, annonce du ministère de l'Intérieur au lendemain d'un scrutin qui s'est globalement déroulé dans le calme. Plus de 920 000 électeurs étaient appelés aux urnes. La participation s'élevait à 87% à 18h selon les chiffres officiels.
Radio France Internationale, 1h08 à Quito, les Équatoriens appelés aux urnes aujourd'hui.
Second tour de la présidentielle après un premier tour extrêmement serré entre Daniel Noboa, l'actuel président qui a déclaré un conflit interne armé contre les gangs de narcotrafiquants, et Luisa González, candidate du parti de gauche Révolution Citoyenne, le tout dans un pays endetté et où désormais un homicide a lieu toutes les heures. Sur les programmes des deux candidats, écoutez Emmanuel Sinardet, professeur d'études latino-américaines à l'Université de Paris-Nanterre.
Daniel Noboa ne se présente pas en tout cas comme un homme de droite. Il est soutenu par les secteurs entrepreneuriaux, par les agro-exportateurs. Il met l'accent sur une réactivation économique reposant sur un État plus efficace, ouvert au secteur privé et aux investissements étrangers. Une lutte contre le narcotrafic qui est celle de la main dure, la mano dura. Luisa González est particulièrement consciente de cette demande. Elle base plutôt sa solution par un retour de l'État dans des politiques sociales, notamment couper l'herbe sous le pied aux groupes narcotrafiquants dans la séduction qu'ils opèrent sur le terrain auprès des jeunes. La candidate Luisa González s'est efforcée tout au long de cette campagne de bien insister sur le fait qu'elle est progressiste de gauche au service de la défense de la souveraineté nationale face à des intérêts étrangers.
La chercheuse Emmanuelle Sinardet, jointe par Juliette Chénion.
Ils veulent pousser une nouvelle génération d'Américains vers la politique.
Mais les démocrates Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez sont en pleine tournée contre l'oligarchie. Les deux figures de l'aile gauche de la politique américaine organisent aujourd'hui un meeting à Salt Lake City, dans l'ouest du pays. Hier, le duo était à Los Angeles devant quelques 36 000 personnes, selon l'organisation. Le plus important meeting de cette tournée, Edouard Maille, a suivi le meeting à distance.
Après les performances de plusieurs artistes comme John Baez et Neil Young, Alexandria Ocasio-Cortez prend la parole. Elle énumère les dérives, à ses yeux, du gouvernement de Donald Trump, expliquant que le pays doit choisir.
Nous pouvons soit avoir des inégalités de richesse extrêmes avec les divisions toxiques et la corruption qui permet à ce système de survivre, ou nous pouvons avoir une économie juste qui garantit un accès à la santé pour tous, pour les classes populaires, ainsi que la démocratie et les libertés qui la soutiennent.
Puis Bernie Sanders entre en scène, fustige à son tour la situation politique du pays, dont il tient pour responsable les intérêts des plus riches.
Nous vivons à un moment où une poignée de milliardaires contrôle la vie économique et politique de notre pays. Nous vivons à un moment avec un président qui ne comprend pas et ne respecte pas la Constitution des États-Unis.
Le sénateur a également critiqué les démocrates, estimant que trop de responsables du parti sont à la botte des intérêts des milliardaires. Edouard Maille, Dayton dans l'Ohio, RFI.
Allez, il est 8h11 ici à Paris. Le départ a été donné il y a quelques minutes par Anne Hidalgo.
Oui, le 48e marathon de Paris, un peu en retard. Hein, départ à 8h01, 55 000 participants cette année. Salut Diouf, vous êtes en direct avec nous. On vous retrouve sur les Champs-Élysées. Salut, quelle est l'ambiance sur place?
Très très bonne ambiance, vous l'entendez autour de moi, il y a beaucoup de badauds qui sont là en train d'encourager leurs proches ou alors des simples participants. C'est une ambiance de fête à 8h du matin sur les Champs, même si les fêtards sont quittés les Champs-Élysées puisque les boîtes de nuit sont fermées. Et côté marathon, côté performance, on peut dire avec presque certitude, même certitude, que le vainqueur de ce marathon sera originaire du continent africain, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et l'année dernière, les deux vainqueurs étaient éthiopiens, Mulugeta Uma chez les hommes et Metsavout Fikir chez les femmes. Et tous les deux sont présents cette année, ils font partie des grands favoris. Et généralement, les meilleurs mettent un peu plus de 2 heures pour boucler le parcours. Justement, on va parler de ce parcours, 42,195 km à travers Paris, d'ouest en est, en passant par les lieux les plus emblématiques de la capitale, la place de la Concorde, la place Vendôme, l'Opéra Garnier, l'Hôtel de Ville, la Tour Eiffel, le Bois de Vincennes. Et pour finir, une longue traversée du Bois de Boulogne. Et notez que tous les coureurs ne sont pas partis en même temps, puisqu'il y a plusieurs sas de départ, espacés d'à peu près un quart d'heure pour éviter les bousculades. Et les plus ambitieux, eux, sont déjà bien partis. Et à noter juste la présence de quelques personnalités du sport français, le retraité biathlète Martin Fourcade et le cycliste Pierre Roland.
Salut Diouf, merci beaucoup et on vous retrouve évidemment tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, le marathon de Paris. On y reviendra aussi dans Mondial Sport sur RFI.
Et on vient d'apercevoir également à l'écran le cycliste britannique Mark Cavendish. Merci Jeanne Bartoli. Dans un instant, la chronique défense de Franck Alexandre, notre tour du monde des correspondants sur la situation des enfants de rue également. Et puis on prend des nouvelles des babouins du zoo de Vincennes avec Florent Guignard. Tout de suite, le journal des sports. Et le retour de Victor Missistrano avec du football, tout d'abord en France, alors que le Paris Saint-Germain est déjà champion. Hier avait lieu un match crucial pour la deuxième place.
Et c'est Monaco qui l'a remporté sèchement, 3-0. Contre l'Olympique de Marseille, début de Minamimo Embolo et Zakaria sur penalty. Les Monégasques reprennent cette place de dauphin avec un point d'avance. Décidément, l'OM souffre en cette fin de championnat. Quatrième défaite en 5 matchs, malgré les parades du gardien Geronimo Rulli. Pour se qualifier en Ligue des Champions, comme l'espère le milieu Valentin Rongier, il va falloir élever son niveau.
Ils ont été plus tranchants que nous, ils ont marqué sur leur situation et encore je crois que Giro réalise un grand match encore ce soir. Voilà, on s'est mis dans cette situation. Il nous reste encore 5 matchs, c'est à nous de s'en sortir. J'ai pas senti une équipe suffisante. Maintenant, c'est sûr que si on perd 3-0 ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mal faites. Donc on va se taire, on va retourner au travail dès lundi. Il nous reste 5 matchs, faut qu'on aille chercher cette qualification.
Un autre résultat qui va compter pour les places européennes, le match nul de partout entre Strasbourg et Nice. Les Strasbourgeois, cinquième, ont deux points d'avance sur Nice et sur Lyon.
En Angleterre, victoire, Arsenal risque à nouveau de céder du terrain à Liverpool.
Les Reds qui reçoivent West Ham cet après-midi et peuvent prendre 13 points d'avance au classement, car comme la semaine passée, les Gunners ont été tenus en échec un partout contre Brentford à domicile.
Et il faut dire que les joueurs d'Arsenal avaient sans doute un peu la tête ailleurs.
Oui, c'est-à-dire à la Ligue des Champions, qui tenteront mercredi de valider leur ticket pour les demi-finales au Bernabeu. Après, on s'en souvient, leur victoire écrasante sur le Real Madrid au match aller, 3-0. Les supporters madrilènes continuent d'y croire avant la seconde manche. En attendant, réaction des merengues attendue aujourd'hui. Un déplacement à Alavés. L'entraîneur Carlo Ancelotti compte sur le caractère de ses joueurs.
Ce Real Madrid est capable de retrouver ses sensations, d'être positif. C'est clair que le match de mercredi sera dans toutes les têtes. Mais notre prestation de mercredi dépendra de celle effectuée ce week-end. Nous sommes encore en lice pour remporter la Liga, donc il faut bien jouer et gagner.
À la Vest Real, coup d'envoi 14h15 TU, pas de temps à perdre pour les madrilènes. Hier, le Barça a pris 7 points d'avance en s'imposant à Leganés 1-0 grâce à un but contre son camp. Adversaire des Catalans en Ligue des Champions et quasiment éliminé, Dortmund jouait à Munich contre le Bayern. Pas de vainqueur hier en Allemagne dans le classiqueur, 2 buts partout Nemo.
Et puis du cyclisme, c'est l'une des courses les plus prestigieuses et difficiles au monde. Paris-Roubaix a lieu aujourd'hui.
Hier, Pauline Ferrand-Prévot est devenue la première française à remporter l'épreuve chez les dames. Aujourd'hui, départ donc de la 122e édition, 259 km sur les routes du nord de la France, dont 55 sur les pavés qui font le sel de cette course. Le double tenant du titre, Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, a de la concurrence face à Tadej Pogacar, le champion du monde et vainqueur du dernier Tour de France. Le Slovène, dont c'est la toute première participation, a déjà montré des aptitudes sur ce terrain, lui qui vient aussi de remporter le Tour des Flandres. Alors forcément, Van Der Poel va s'en méfier.
Je pense, ouais, Tour de Flandre, c'est un peu plus facile pour lui pour faire la différence dans l'écoute. Mais ouais, j'ai déjà référé quelques fois. Je pense que tout le monde sait comme il était fort au Tour de France sur l'étape pavée. Donc ça va être un des favoris. Avec Wout van Aert et aussi Pedersen surtout. Lui, c'est un des plus grands favoris pour moi. Il y a vraiment beaucoup de coureurs qui peuvent gagner demain.
Mathieu Van Der Poel avec Thomas de Saint-Léger.
Un duel alléchant attendu pour cet enfer du Nord. Départ à 11h25, heure de Paris. Merci Victor Missistrano. Place à la chronique défense. Et si la guerre entre l'Ukraine et la Russie avait institutionnalisé un nouveau type d'affrontement par l'électronique? On vous en parle régulièrement avec l'utilisation massive de drones par les deux camps. Et c'est un secteur qui évolue toujours plus vite. Une course à l'innovation pour les entreprises du secteur. Certaines d'entre elles ont pu, la semaine dernière, au Sofins, le salon de l'armement terrestre en France, dévoiler leur dernière pépite. Des appareils toujours plus puissants et toujours plus petits. Franck-Alexandre signe ligne de défense.
Avec peu d'innovations, en particulier en termes de taille et de poids, les appareils de guerre électronique furent longtemps le parent pauvre des équipements terrestres. Une fois de plus, la guerre d'Ukraine est venue bouleverser l'offre. Au Sofins, Thales, géant du secteur, a présenté l'Eagle Tracker, l'un des plus petits capteurs du marché, 40 cm par 10. Nicolas Fauvet est l'ingénieur.
On va couvrir avec ce type d'équipement les radios soldats, la téléphonie par satellite, on va pouvoir détecter des drones, on va pouvoir détecter des brouilleurs de GPS, on va pouvoir détecter de l'IoT, tout ce qui est dans la gamme de fréquences des moyens de communication. Et vraiment la nouveauté sur ce type d'équipement-là, c'est le fait de l'avoir miniaturisé, d'avoir un équipement qui fait de la classe 4 kg, ce qui permet du coup de l'installer sur un drone. Là, on ciblait un bunker, là on va effectivement détecter qu'il y a des moyens de communication qui sont dans le bunker. On va pouvoir du coup remonter ce type d'information-là pour mener une opération.
L'appareil détecte les menaces, les classifie, il permet aussi d'avoir accès au contenu des télécommunications.
Le cas d'usage typique de ce type de drone, c'est un véhicule d'opération qui va passer à côté d'un relief, qui va peut-être contourner un relief, une montagne, et qui veut voir avant de contourner s'il n'y a pas une menace de l'autre côté. Donc il va envoyer le drone, qui va juste regarder au-dessus de la végétation, là où normalement les moyens goniométriques qui seraient au sol ne verraient pas d'éventuelles menaces. il va pouvoir détecter la menace. En plus, de l'autre côté, les forces ennemies voyant un drone vont commencer à communiquer pour dire « attention, il y a un drone », ça va être encore plus simple de les détecter.
Autre innovation, l'Eagle Tracker positionne directement sur une carte les émissions repérées sans lui-même pouvoir être détecté. Nicolas Fauvé.
Le capteur, il est totalement passif. Ce n'est pas comme un radar qui va émettre une onde, qui va être réfléchi. Là, on va vraiment capter l'ensemble des signaux qui peuvent être dans les environs. Donc ce capteur-là, lui-même, n'est pas détectable. Si on utilise ce type de drone-là, alimenté par un câble, avec la liaison de données qui se fait par une fibre optique à l'intérieur, c'est la totalité du système qui est passive. Et donc on peut protéger un campement, ça va donner l'équivalent d'une antenne, d'un pylône, qui serait à une centaine de mètres. Et avec un équipement de ce type-là, on va avoir une capacité de détection des signaux qui est de plusieurs dizaines de kilomètres. Cet équipement-là fait également ce qu'on appelle de la remontée de réseau. Et par exemple, quand on va détecter que plusieurs communications arrivent à un même point, c'est en général un centre de commandement. Donc on va pouvoir remonter comme ça le réseau de communication, établir une situation tactique.
Les premières unités de série seront disponibles en fin d'année. C'est aussi pour les industriels l'un des retours d'expérience ukrainiens, être capable de produire vite et en quantité.
Ligne de défense, c'est signé Franck Alexandre.
RFI Matin.
Notre tour du monde des correspondants au lendemain de la journée internationale des enfants, dit des enfants de rue. Hier, nous recevions dans RFI Matin Guillaume Lardanché, directeur de l'association Hors la rue. Et ce matin, nous sommes sur le terrain. On prend le pouls de la situation dans quatre pays. D'abord en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale, 17 millions d'habitants. Et parmi eux, les Chégué, c'est comme ça qu'on les appelle, présents dans tous les quartiers de la ville. Voilà près de 50 ans que des acteurs de la société civile alertent sur leur présence. Pauline Azidi les alerte également sur l'absence de structure pour les accueillir.
Difficile d'estimer ici le nombre de Chégué qui sillonnent la ville et vivent de mendicité, de petites activités ou encore de vol. Au moins 20 000 estiment les associations. En 2024, le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue avait révélé avoir répertorié près de 50 000 enfants des rues dans la capitale ces 10 dernières années. Ces enfants sont le plus souvent abandonnés par des parents qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins dans une société gangrénée par la pauvreté. Près de 60% de la population congolaise vit avec moins de 2 dollars par jour. Régulièrement, les autorités annoncent des opérations policières pour lutter contre ces Chégué. C'était une nouvelle fois le cas à Kinshasa au mois d'octobre dernier. Mais pour les associations, il faudrait travailler sur leur réinsertion au risque de les voir rejoindre les gangs surnommés les Kuluna.
Et s'il est difficile d'estimer combien ils sont à Kinshasa, c'est un peu plus précis à Manille, aux Philippines. Ils seraient près de 250 000. Là aussi, trop souvent contraints de se débrouiller seuls. Beaucoup sont collecteurs d'ordures. Parfois, et dans le pire des cas, forcés de se prostituer. Ces enfants n'ont accès à rien. Alors, associations comme législateurs se battent pour qu'ils bénéficient de plus en plus de considération. Nous sommes en ligne avec Nemo Lecoq-James depuis Manille. Nemo, certains d'entre eux n'ont même pas de certificat de naissance.
Dans les rues, ils sont bien là, mais sur le papier, il n'existe pas. Ici à Manille, beaucoup d'enfants des rues sont complètement invisibles aux yeux de la loi. En fait, ils n'ont pas de certificat de naissance. Ils sont souvent nés dans des conditions très précaires, à la maison, dans des bidonvilles, et ils n'ont pas été officiellement reconnus. Résultat, ces enfants n'ont donc aucun droit, pas le droit d'aller à l'école, d'avoir accès à un suivi médical ou une protection sociale. Pourtant, en principe, aux Philippines, l'enregistrement des naissances est une obligation légale, hein. Mais dans les faits, ici, reconnaître un enfant, c'est compliqué pour certaines communautés précaires. Il faut faire une démarche en ligne ou en physique, il faut savoir lire, écrire et parfois même payer si l'enregistrement est fait avec du retard. Selon les chiffres officiels, il n'y aurait pas moins d'un million d'enfants philippins sans acte de naissance. Alors ici, plusieurs ONG se battent pour faire passer un projet de loi qui vise à rendre les procédures plus accessibles et plus inclusives.
Chégué en RDC, vous l'avez entendu, ces enfants sont appelés Meninos da Rua au Brésil et sont des figures emblématiques dans les grandes villes comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro. Sarah Cozzolino, ils subissent de plein fouet le racisme structurel.
Oui, ils font souvent la manche ou vendent des sucreries aux passants ou aux automobilistes arrêtés au feu rouge. En grande majorité, ce sont des garçons. Ils sont noirs, originaires des favelas ou des banlieues pauvres. Ils seraient 24 000 dans le pays, selon une étude qui date de 2011, mais les données ne sont plus actualisées. Selon certains défenseurs des droits humains, si on ne les compte pas, c'est pour mieux les exterminer, car ils sont fréquemment victimes de violences policières, considérées d'office comme des voyous ou de futurs bandits. Il y a 30 ans, le massacre de Candelaria à Rio de Janeiro est devenu un symbole de cette violence. Le 23 juillet 1993, alors qu'une cinquantaine de jeunes dormaient sur les marches de l'église de Candelaria, 8 jeunes, dont 7 mineurs, ont été tués par la police. Aujourd'hui, les assassinats d'enfants innocents continuent, notamment lors des opérations policières dans les favelas.
On termine ce tour du monde des correspondants, des correspondantes, même ce matin au Mexique, où une personne sur 3 est mineure et une sur 2 en situation de pauvreté. Là-bas, selon les chiffres de l'ONG World Vision, plus de 5 millions d'enfants et d'adolescents vivraient dans la rue ou du moins en dépendraient, bien souvent mis à contribution par les familles. Gwendolina Duval.
Les enfants dans la rue sont les premiers concernés par le travail infantile. Au Mexique, il n'y a pas de chiffre officiel, mais en 2022, selon une enquête nationale, 800 000 enfants entre 4 et 17 ans travaillaient plus de 35 heures par semaine. Du travail informel, dans les villes, on retrouve ces enfants au carrefour à nettoyer des pare-brises pendant les feux rouges, ou bien ils déambulent pour vendre des sucreries et toutes sortes de petits objets, souvent avec un de leurs parents. Il s'agit d'enfants qui grandissent au sein de foyers vulnérables. Au Mexique, la moitié de la population est en situation de pauvreté. Déscolarisés, ils sont aussi plus exposés aux violences et aux drogues. Au Mexique, il y a cette problématique des enfants recrutés par les groupes criminels. L'ampleur du phénomène est méconnue, mais des travaux universitaires mettent en évidence l'emploi des mineurs pour vendre de la drogue ou bien effectuer des missions de surveillance. L'État ne parvient pas à se saisir du problème. Au Mexique, l'autre phénomène qui plonge les enfants dans la rue, c'est la migration. Ces dernières années, des millions de personnes et des familles ont traversé le pays pour tenter d'aller aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup sont toujours coincés dans le pays. Donc, en plus d'une déscolarisation prolongée, du danger des routes, les enfants vivent dans des refuges ou des camps improvisés.
Le tour du monde des correspondants. Merci à Paulina Zidi, Nemo Lecoq James, Sarah Cozzolino et Gwendolina Duval. Ils passeront devant le zoo de Vincennes dans quelques minutes, quelques heures pour certains, les coureurs du marathon de Paris ce matin. Eh bien nous y entrons dans ce zoo avec Florent Guignard et sa chronique C'est dans ta nature pour y rencontrer les babouins de Guinée et leur communication élaborée, alors que le parc place cette année son année sous le signe de l'IA, non pas l'intelligence artificielle mais bien l'intelligence animale.
J'arrive, les babouins !
Mais qu'est-ce qu'il fout ?
Joyeux Noël, les sages !
C'est l'une des scènes cultes du film culte « Le Père Noël est une ordure » tournée au pied de l'immense rocher du zoo de Vincennes où nous assistons aujourd'hui au nourrissage, beaucoup plus réglementaire, des babouins de Guinée.
La nourriture a été dispersée dans l'enclos pour éviter les conflits, donc chacun va pouvoir manger. Les animaux les plus dominants, ils vont avoir tendance à manger en premier.
Julie Bonald coordonne le programme européen de reproduction des babouins de Guinée, des singes qu'on trouve aussi au Sénégal ou au Mali, une espèce quasi menacée. C'est le plus petit de tous les babouins, mais sa palette, pour communiquer, est très large. Une communication bien sûr orale.
On peut avoir des grognements amicaux qu'on appelle des grunts pour montrer leur bonne intention.
Une communication visuelle aussi, par exemple pour montrer son hostilité.
Par exemple, un haussement de l'arcade sourcilière, donc on voit un peu le blanc des paupières. On va avoir une bouche qui va former un O.
Chez la femelle babouin, la communication passe aussi par la couleur de son derrière.
Par exemple, là vous avez une femelle, vous voyez c'est rose mais c'est pas très gonflé, donc là on est soit en fin, soit en début de strus, donc là elle n'est pas réceptive pour l'accouplement. Et par exemple, la femelle du fond, elle est vraiment plus proche de la période de reproduction.
Regardez ça, c'est magnifique, c'est la nature.
Pour papier, c'est très gênant.
Des mâles comme des femelles peuvent sentir ou toucher la zone urogénitale. C'est ce qu'on appelle des salutations. Je présente une zone sensible, en gage du fait que je ne vais pas vous attaquer, etc.
Et puis il y a bien sûr l'épouillage.
Bah là on voit du coup deux babouins qui sont l'un à côté de l'autre. Et il y en a un qui monte son dos à l'autre, qui cherche à la... dans le pelage pour enlever les petites impuretés, les petits parasites. Alors, ça n'a pas qu'une fonction de toilettage, en fait. Ça a été comparé, en fait, un peu au commérage chez l'humain. Donc, c'est vraiment pour renforcer les liens sociaux entre les individus.
Et ça leur fait du bien. L'épouillage stimule la production d'endorphines, l'hormone du bonheur.
Bon, bah, salut, monsieur, dame. Bonne chance.
Bah non, il faut rester. La chronique n'est pas finie.
Les bonobos, ils me ressemblent.
À moins que ce soit l'inverse. Les bonobos sont les primates les plus proches des humains. Notre ancêtre commun vivait il y a 7 millions d'années. Et une étude réalisée au Congo-Kinshasa vient encore de le confirmer. Pour communiquer, les bonobos ne se contentent pas de cris isolés. Ils sont capables de faire des phrases. Mieux, le sens d'un cri, d'un mot, dépend de l'autre cri dans la phrase ainsi que du contexte. Les bonobos utilisent des combinaisons complexes, une forme de syntaxe. On pensait jusqu'ici que c'était le propre de l'homme. Tandis que plus...
talent. L'homme passe partout, s'emparant de la terre, s'inventant un destin.
M est le titre Bonobo pour accompagner la chronique de Florent Guignard.
Le prix théâtre RFI.
C'est le moment pour participer à sa 12e édition. Vous êtes auteur ou autrice, vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient. Envoyez vos textes avant le samedi 3 mai minuit à l'adresse suivante. prix.théâtre@rfi.fr.
En partenariat avec la SACD, l'Institut français, les francophonies des écritures à la scène, Théâtre ouvert, le CDN de Normandie-Rouen et la Villa d'Art à Saint-Louis du Sénégal.